Chapitre 14. Un autre jour, une autre réunion. Qui aurait cru que sauver le monde pouvait être si ennuyeux? L'équipe scientifique était installée autour de la table de réunion. Dimitri, Loken et moi. En dépit de sa haine de la bureaucratie, Strat dirigeait quotidiennement des réunions avec ses chefs de service de facto. Il arrive que les choses que nous détestons deviennent incontournables, nécessaires. Strat était assise au haut bout de la table, évidemment. Un homme que je voyais pour la première fois était installé à côté d'elle. « Bonjour tout le monde, » commença Strat. « Permettez-moi de vous présenter le docteur François Leclerc. »«
Salut, »
lança le Français avec un enthousiasme contenu.
« Le docteur Leclerc est un climatologue renommé travaillant à Paris. » Je lui ai confié pour mission de surveiller, de comprendre, et, si possible, de pallier les effets néfastes du changement climatique induit par les astrophages.
« Rien que ça ? » demandai-je. Leclerc eut un sourire très furtif.
« Docteur Leclerc, » reprit Strat, « nous ne savons pas à quoi nous attendre concernant la réduction de l'énergie solaire. Il y a autant de prévisions que de climatologues, apparemment. »
Les climatologues ont déjà du mal à s'entendre sur la couleur des oranges, acquiesça-t-il dans un haussement d'épaule. L'étude du climat n'est malheureusement pas une science exacte. Les incertitudes ne manquent pas et, si je suis honnête, les conjectures non plus. La climatologie n'en est qu'à ses balbutiements.
Vous êtes bien trop modeste. Vos modèles de prédiction climatique ne se sont jamais trompés en 20 ans. On ne peut pas en dire autant de ceux de vos collègues.
Il hocha la tête.
J'ai reçu tout un tas de prédictions, poursuivit Strat. Certaines parlent de mauvaises récoltes, d'autres d'effondrement global de la biosphère. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous avez vu la courbe des rayonnements solaires? Que nous prédisez-vous?
Un désastre, bien sûr. Je parle de l'extinction de nombreuses espèces, du bouleversement de biomes entiers aux quatre coins du monde, de changements majeurs dans les conditions météorologiques.
« Pour les humains, » l'interrompit Strat, « je veux savoir comment et quand cela va affecter les hommes. Je me fiche des sites de reproduction du paresseux à trois anus des marécages ou de je ne sais quel biome. »
« Nous faisons partie de cette écologie, Madame Strat. Nous ne sommes pas de simples observateurs extérieurs. Les plantes que nous mangeons, les animaux que nous élevons, l'air que nous respirons, tout fait partie de la même tapisserie. Tout est interconnecté. » L'effondrement des biomes aura un impact direct sur l'humanité.
Bon, des nombres alors. Je veux des nombres, des choses tangibles, pas des prédictions vagues.
D'accord, acquiesça-t-il en lui lançant un regard noir.
19 ans.
19 ans? Vous vouliez un nombre. Le voici, 19 ans.
Quoi, 19 ans?
D'après mes calculs, la moitié de la population mondiale sera morte dans 19 ans.
S'ensuivit un silence comme je n'en avais jamais vécu. Même Strat semblait prise de court.
Loken et moi échangeâmes un regard. Je ne sais pas pourquoi, mais cela s'est passé ainsi. Dimitri avait la bouche ouverte.
La moitié ? Demanda Strat. 3,5 milliards de gens ?
Oui, confirma-t-il.
C'est assez tangible pour vous ?
Qu'est-ce que vous en savez?
Et une climato-sceptique de plus, une,
dit l'homme en faisant la moue.
C'est tellement facile. Il me suffit de dire quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre.
Trêve de condescendance, Leclerc. Contentez-vous de répondre à mes questions.
Nous observons déjà des changements climatiques, ajouta-t-il en croisant les bras.
Il paraît qu'il y a eu des tornades en Europe, intervint Loken en se raclant la gorge.
« En effet, et il y en a de plus en plus souvent. Avant l'arrivée des conquistadors espagnols en Amérique du Nord, il n'y avait pas de mots pour désigner ces phénomènes dans les langues européennes. Désormais, il y a des tornades en Italie, en Espagne et en Grèce. »
Il pencha la tête sur le côté et poursuivit.
« C'est dû à la fois aux astrophages et au fait qu'un débile a eu l'idée de paver le Sahara avec des rectangles noirs. » Comme si un bouleversement de la distribution de la chaleur tout près de la Méditerranée pouvait être anodin. « Je savais pertinemment qu'il y aurait des effets, » se défendit Strat en levant les yeux au ciel. « Mais nous n'avions pas le choix. »
« Le massacre du Sahara mis à part, il y a des phénomènes bizarres sur toute la planète. La saison des cyclones est décalée de 2 mois. Il a neigé au Vietnam la semaine dernière. Le jet stream est chaotique, il varie de jour en jour. L'air arctique arrive dans des endroits où on ne l'a jamais trouvé. Idem pour l'air tropical, qui se déplace très loin vers le nord et le sud. C'est un véritable maelstrom.
Revenons à nos 3,5 milliards de gens. L'invita Strat.
Bien sûr. Il est aisé de prévoir des famines. Prenez la quantité de calories produites chaque jour par l'agriculture humaine sur Terre et divisez-la par 1500. La population mondiale ne peut pas dépasser ce nombre. Pas très longtemps, en tout cas.
J'ai utilisé les meilleurs modèles à ma disposition, expliqua-t-il en jouant avec un stylo.
Les rendements agricoles vont chuter. Les cultures principales sont le blé, l'orge, le millet, les pommes de terre, le soja et surtout le riz. Autant de plantes très sensibles au changement de température. Si les rivières gèlent, il n'y a plus de riz. Si les champs de pommes de terre sont inondés, il n'y a plus de pommes de terre. Si les champs de blé subissent une humidité 10 fois supérieure à la normale, le blé meurt.
Il releva la tête vers Strat.
Si nous avions un stock élevé de paresseux à 3 anus, nous pourrions peut-être survivre.
19 ans, ce n'est pas assez, affirma Strat en se pinçant le menton. Il faudra 13 ans aux dernières chances pour atteindre Tau-Ceti, et 13 années de plus pour que des données potentiellement utiles nous parviennent. Nous avons besoin d'au moins 26 ans, 27 de préférence.
Il la regarda comme s'il lui poussait une seconde tête.
Qu'est-ce que vous racontez? Il n'est pas question de conséquences optionnelles. Ces choses vont arriver et nous ne pouvons rien y faire.
Foutaise. L'humanité réchauffe le climat par inadvertance depuis plus d'un siècle. Si on s'y mettait sérieusement, on pourrait faire beaucoup mieux.
Quoi? Vous plaisantez?
Demanda-t-il en s'adossant à sa chaise.
Une bonne couverture de gaz à effet de serre nous permettrait de gagner un peu de temps, non? Elle isolerait la Terre comme une parka, ferait durer un peu plus l'énergie dont nous disposons. Vrai ou faux?
Mais... bafouilla-t-il.
Vous n'avez pas tort, mais l'échelle... Et puis, serait-ce moral? Je veux dire, produire délibérément des gaz à effet de serre?
Je me fous de la morale. Elle s'en fout vraiment, confirmai-je.
Ce que je veux, c'est sauver l'humanité. Alors bossez-moi cet effet de serre. C'est vous le climatologue. Trouvez un moyen de tenir au moins 27 ans. Il est hors de question de perdre la moitié de l'humanité.
Leclerc déglutit.
Allez, mettez-vous au boulot,
lança Strat en le congédiant d'un geste dédaigneux. 3 heures et 50 de mots de plus dans notre dictionnaire commun. Et je suis enfin en mesure d'expliquer à Rocky les radiations et leurs effets sur la biologie.
« Merci, » dit-il de sa voix inhabituellement grave et triste. « Maintenant, savoir comment mes amis morts ?»«
Mal, mal, mal. »«
Oui, »
acquiesce-t-il. Durant notre conversation, j'ai compris que le spot A n'est pas du tout protégé contre les radiations. Et je sais pourquoi les Iridiens ne les ont jamais découvertes. J'ai mis un certain temps à rassembler les pièces du puzzle, mais voici ce que je sais. La planète natale des Iridiens est la plus proche de l'étoile A dans le système de 40 Eridani. Les humains la connaissent depuis un bon bout de temps sous le nom de catalogue de 40 Eridani AB, mais ils ignoraient qu'elle abritait une civilisation. Son nom Iridien est une suite d'accords, comme tous les mots Iridiens. Aussi me contenterai-je de l'appeler Éride. Éride est extrêmement proche de son étoile, 20% plus proche que la Terre l'est du Soleil. Son année dure un peu plus de 42 de nos jours. Éride est ce que nous appelons une super-Terre, dont la masse équivaut à 8,5 fois celle de notre planète. Son diamètre est 2 fois plus grand que celui de la Terre et sa pesanteur à la surface plus de 2 fois plus forte que la nôtre. Et puis, elle tourne très vite.
vraiment très vite. La journée ne dure que 5,1 heures. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Les planètes ont un champ magnétique dans certaines circonstances précises. D'abord, elles doivent avoir un noyau de fer en fusion et se trouver dans le champ magnétique de leur étoile. Et puis elles doivent tourner. Lorsque ces trois conditions sont réunies, on obtient un champ magnétique. La Terre en a un. C'est ce qui permet aux boussoles de fonctionner. Eride aussi réunit ces conditions, mais en beaucoup plus fort. La planète est plus grande que la Terre et possède un plus gros noyau de fer. Elle est plus proche de son Soleil, dont le champ magnétique plus puissant alimente le sien. Pour finir, elle tourne extrêmement vite. Il résulte de tout cela que le champ magnétique d'Eride est au moins 25 fois plus intense que celui de la Terre. Par ailleurs, l'atmosphère de la planète est très épaisse, 29 fois plus épaisse que la nôtre. Un puissant champ magnétique, ajouté à une atmosphère très épaisse, fait une excellente protection contre les radiations. Sur Terre, la vie a évolué de manière à gérer ces radiations. Notre ADN a la capacité de se réparer parce qu'il est constamment bombardé par les radiations venues du Soleil et de l'espace en général. Notre champ magnétique et notre atmosphère nous protègent, mais pas à 100%. La protection des rides est totale. Les radiations n'atteignent jamais le sol. La lumière non plus d'ailleurs, raison pour laquelle les Iridiens n'ont pas développé d'yeux. À la surface, il fait nuit noire. Comment une biosphère peut-elle exister dans les ténèbres? Je n'ai pas demandé à Rocky comment cela fonctionnait, mais je sais qu'il y a plein de vie dans le fond des océans où le soleil ne brille jamais. C'est donc tout à fait possible. Les Iridiens sont extrêmement sensibles aux radiations dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Notre conversation suivante a duré une heure supplémentaire et permis d'ajouter quelques dizaines de mots à notre dictionnaire. Les Iridiens ont développé le voyage spatial il y a longtemps. Grâce à leur technologie des matériaux et à la xénonite, ils ont construit un ascenseur spatial. Un câble tendu entre l'équateur et une orbite synchrone leur permet de quitter la surface grâce à un simple système de contrepoids. Ils prennent littéralement l'ascenseur pour aller dans l'espace. Si nous savions produire la xénonite, nous pourrions faire de même sur Terre. Toutefois, les Iridiens n'avaient jamais quitté cette orbite. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Eride n'a pas de lune. C'est souvent le cas des planètes si proches de leur étoile, les forces de marée gravitationnelle ayant tendance à arracher les lunes potentielles de leurs orbites. Rocky et ses camarades sont donc les premiers Iridiens à s'éloigner de leur planète. Ils ignoraient que le champ magnétique d'Eride, qui s'étend bien au-delà de son orbite synchrone, les protégeait des radiations. Il restait un mystère à résoudre, cependant. « Pourquoi moi, toujours vivant ?» Question, demande Rocky.
« Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui vous a protégé ? Que faisiez-vous que les autres ne faisaient pas ?»«
Je réparais objets, réparais choses cassées, fabriquais objets nécessaires, entretenir moteurs. » »«
J'ai donc affaire à un ingénieur. Où étiez-vous la plupart du temps ?»
Endroit à moi dans vaisseau, atelier.
Où est cet atelier? Demandai-je en commençant à comprendre.
Arrière du vaisseau, près moteur.
C'est en effet l'endroit le plus indiqué où installer l'ingénieur d'un vaisseau, près des moteurs, là où il y a le plus de maintenance à faire. Où se trouvent vos réserves d'astrophage? Il désigne d'un geste ample et vague l'arrière du navire.
Beaucoup, beaucoup réservoirs astrophages. Tous à l'arrière, près moteur. Plus facile pour alimenter.
Le mystère se dissipe. Je soupire. Cela ne va pas lui plaire. La solution était tellement simple, mais il ne pouvait pas savoir. Il n'était même pas conscient du problème. Les astrophages stoppent les radiations. Vous étiez entouré d'astrophages la plupart du temps, au contraire de vos camarades. Les radiations les ont tués. Il ne dit rien. Il a besoin d'un peu de temps pour encaisser l'information.
Compris, finit-il par acquiescer d'un ton grave. Maintenant, savoir pourquoi pas mourir.
J'essaie d'imaginer le désespoir des siens.
construire un vaisseau interstellaire, tenter le tout pour sauver leur espèce, en dépit d'un programme spatial très en retard par rapport au nôtre et d'une connaissance très limitée de l'espace. Finalement, je ne suis pas tellement mieux loti. Je bénéficie simplement d'un peu plus de technologie. Il y a des radiations ici aussi. Restez autant que possible dans votre atelier. Oui. Vous allez devoir tapisser les parois de votre moitié de tunnel d'astrophage. Oui. Vous faire pareil. Ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi ? Question. Parce que ce ne sera pas très grave si je développe un cancer. Je vais mourir de toute façon. Mais je n'ai pas envie de lui expliquer que je suis en mission suicide. Pas pour l'instant. La conversation est bien assez grave comme cela. Rocky devra se contenter d'une demi-vérité. L'atmosphère de la Terre est fine et son champ magnétique très faible. Les radiations atteignent sa surface. La vie sur Terre a évolué de façon à résister aux radiations. Compris. Il continue à réparer son objet pendant que je flotte dans le tunnel. Soudain, une pensée me vient. « Hé, j'aimerais vous poser une question. »« Posez. » »« Comment se fait-il que la science éridienne soit si proche de la science humaine ? Des milliards d'années et des progrès comparables ?» Cela me tracasse depuis quelque temps. Alors que nous avons évolué dans des systèmes différents, que nous ne nous étions encore jamais rencontrés, l'écart technologique entre nos deux civilisations est négligeable, même s'il est vrai que les Éridiens ont un léger retard en matière de technologie spatiale. Pourquoi n'en sont-ils pas à leur âge de pierre ? Ou au contraire, à un âge super futuriste, à côté duquel la Terre moderne paraîtrait antique ? Sinon, vous et moi jamais rencontrés, 6 planètes moins de science, impossible construire vaisseau spatial. 6 planètes plus de science, capable comprendre et détruire astrophage sans quitter système. Science Terre et Éride, atteindre stade spécifique. Capable construire vaisseau, pas résoudre problème astrophage.
Je n'y avais pas pensé. Maintenant qu'il le dit, c'est évident. Si ces événements étaient arrivés au temps où l'humanité était à l'âge de pierre, nous serions tout simplement morts. Et s'ils étaient arrivés dans 1000 ans, nous aurions sans doute réglé le problème sans difficulté. La fenêtre technologique dans laquelle une espèce est contrainte d'entreprendre un voyage interstellaire pour lutter contre les astrophages est finalement très étroite. Juste assez large pour laisser passer les Éridiens et les hommes.
Compris. Bonne observation. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu.
C'est quand même inhabituel. Les humains et les Éridiens sont très proches géographiquement. La Terre et Éride ne sont distantes que de 16 années-lumière. La galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. La vie est rare, mais nous sommes si proches.
Nous, peut-être, famille.
Nous serions apparentés.
Comment est-ce que...
Oh, vous voulez dire...
Waouh.
J'ai un peu de mal à envisager la chose.
Pas sûr. Théorie.
C'est une excellente théorie. La théorie de la pense permis. Loken et moi, on s'est beaucoup disputé à ce sujet. La vie sur Terre et les astrophages se ressemblent bien trop pour qu'il puisse s'agir d'une coïncidence. Je soupçonne que la Terre a été ensemencée par un ancêtre de l'astrophage, par un progéniteur interstellaire. La même chose a très bien pu se produire sur Éride, mais cela ne m'avait pas effleuré l'esprit. Peut-être y a-t-il de la vie partout, partout où l'ancêtre de l'astrophage a évolué pour devenir la cellule que je peux observer aujourd'hui. J'ignore à quoi ressemblait cet ancêtre, mais une chose est sûre, les astrophages sont sacrément costauds. N'importe quelle planète susceptible d'accueillir la vie pourrait en abriter. Rocky pourrait être un lointain parent oublié. Très lointain. Les arbres devant ma maison me sont plus proches que Rocky, mais quand même.
Waouh ! Excellente théorie, vraiment.
Merci.
Il y avait probablement pensé depuis longtemps. Personnellement, je vais avoir du mal à encaisser cette hypothèse. Pour une fois, je me félicitais de me trouver sur un porte-avions.
La marine chinoise ne discutait même plus les ordres de Strat. Les plus hauts gradés en avaient eu assez d'avoir à approuver la moindre de ces décisions, aussi avaient-ils demandé à leurs subalternes de faire tout ce qu'elles leur demandaient, à condition qu'il ne s'agisse pas de tirer des missiles. Nous avions jeté l'ancre près de l'Antarctique occidentale au milieu de la nuit. La côte était visible au loin dans le clair de lune. Le continent tout entier avait été évacué. Décision peut-être exagérée, la station Amundsen Scott au pôle sud se trouvant à plus de 1500 kilomètres. Ses occupants étaient sans doute à l'abri, mais il valait mieux ne courir aucun risque. C'était la plus grande zone d'exclusion navale de l'histoire. Elle était tellement vaste qu'il était difficile, même pour l'US Navy, d'empêcher les navires commerciaux d'y pénétrer. « Destroyer un, confirmé état ?» demanda Strad dans un talkie-walkie. « Prêt à observer ?» répondit une voix au fort accent américain. « Destroyer deux, confirmé état ?»« Prêt !» répondit un autre américain. Réunis sur le pont d'envol, l'équipe scientifique avait le regard rivé sur le continent. Dimitri et Loken se tenaient loin du bord. Quant à Redl, il était en Afrique, où il gérait la production des panneaux noirs. Strat, évidemment, était seul devant tout le monde. Leclerc, quant à lui, avait l'air d'un condamné à mort sur le point d'être conduit à l'échafaud. « Nous sommes presque prêts, » soupira-t-il. Strat appuya sur le bouton de son talkie-walkie. « Sous-marin 1, confirmé état. »«
Prêt. »
« Plus que 3 minutes, » annonça Leclerc en regardant sur sa tablette. « À tous les navires, alerte jaune. Sous-marin 2, confirmé état. Prêt. »«
C'est incroyable, » dis-je en rejoignant Leclerc.
« J'aurais vraiment préféré ne pas avoir cela sur la conscience, » murmura-t-il en secouant la tête et en manipulant sa tablette. « Vous savez, Dr. Grace, j'ai été toute ma vie un genre de hippie décomplexé. Depuis mon enfance à Lyon jusqu'à mes études à Paris, je suis un pacifiste, le genre de type à serrer les arbres dans ses bras. Pas du tout un militant politique. »
Je ne dis rien. C'était le pire jour de sa vie. Si je pouvais l'aider en l'écoutant, eh bien, soit.
Je suis devenu climatologue pour sauver le monde, pour mettre un terme au cauchemar environnemental dans lequel nous vivions. Et maintenant... C'est nécessaire, mais c'est horrible. Vous êtes un scientifique, je suis sûr que vous comprenez.
Pas vraiment. J'ai passé ma carrière à me détourner de la Terre, en réalité. Le climat, franchement, je n'y connais rien. C'en est embarrassant.
L'Antarctique occidentale est un désert de glace et de neige. La région tout entière est un glacier géant glissant lentement vers la mer. Des centaines de milliers de kilomètres carrés de glace.
Et nous allons la faire fondre.
L'océan la fera fondre pour nous. Mais oui, c'est bien cela. Autrefois, l'Antarctique était une jungle. Pendant des millions d'années, il était aussi verdoyant que l'Afrique. La dérive des continents, cependant, ajoutée à l'évolution du climat, a provoqué sa glaciation. Les plantes sont mortes et se sont décomposées. Les gaz produits par cette décomposition, du méthane surtout, ont été piégés par la glace.
Et le méthane est un gaz à effet de serre très efficace.
Bien plus efficace que le dioxyde de carbone,
confirma-t-il dans un hochement de tête. Il regarda une nouvelle fois sa tablette.
2 minutes.
À tous les navires, alerte rouge, annonça Strat par radio. Je répète, alerte rouge.
Et moi, l'activiste écolo, le climatologue, le militant anti-guerre.
Il se tourna vers la mer.
Je suis sur le point d'ordonner une frappe nucléaire sur l'Antarctique. 241 munitions nucléaires offertes par les États-Unis, enfouies dans une fissure à 50 mètres de profondeur, à 3 kilomètres d'intervalle. Elles vont toutes exploser en même temps.
J'acquiesçais lentement de la tête.
Il paraît que les radiations vont être minimes, ajouta-t-il.
Ouais, il s'agit de bombes à fusion, si ça peut vous consoler. Je serrai ma veste autour de moi. Il y a une petite fission avec de l'uranium et d'autres trucs qui provoque une fusion plus importante. La grosse explosion, c'est juste de l'hydrogène et de l'hélium, pas de radiation.
Oui, ce n'est pas rien, c'est vrai.
C'était la seule option, manquis-je.
On aurait pu demander à des usines de produire en masse de l'hexafluorure de soufre, ou un quelconque gaz à effet de serre.
Il aurait fallu multiplier plusieurs milliers de fois la production maximale. N'oubliez pas que nous avons brûlé du charbon et du pétrole pendant plus d'un siècle, et ce à une échelle globale, avant de comprendre que cela affectait le climat.
Il vérifia de nouveau sa tablette.
Le glacier se fendra le long de sa ligne d'explosion et glissera lentement vers l'océan où il fondra. Le niveau de la mer montera d'un centimètre durant le mois suivant, la température de l'océan descendra d'un degré, ce qui est un désastre, mais oublions ça pour l'instant. Une énorme quantité de méthane sera libérée dans l'atmosphère. Mais le méthane est devenu notre ami, notre meilleur ami. Et pas seulement parce qu'il nous gardera au chaud pendant quelque temps.
Hein?
La durée de vie du méthane dans l'atmosphère est de 10 ans. Toutes les quelques années, nous pourrons faire glisser dans l'eau un morceau d'Antarctique pour modérer le taux de méthane. Et si le dernière chance trouve la solution à notre problème, nous n'aurons à attendre que 10 ans que le méthane disparaisse. On ne pourrait pas faire ça avec le dioxyde de carbone.
Combien de temps? Demanda Strat en approchant.
60 secondes,
répondit-il. Elle opina du chef. Ça règle la question, alors, m'étonnai-je. Il nous suffit de faire des trous dans l'Antarctique pour libérer du méthane et maintenir une température élevée.
Non, rétorqua-t-il. C'est une mesure à court terme. Libérer toute cette saleté maintiendra à un niveau acceptable la température de l'atmosphère, mais les écosystèmes vont énormément souffrir. Nous aurons toujours des phénomènes climatiques affreux et imprévisibles, des récoltes catastrophiques, des annihilations de biomes. Peut-être, peut-être seulement, le méthane arrangera-t-il un peu la situation.
Je regardais du coin de l'œil Strat et Leclerc qui se tenaient côte à côte. Jamais dans l'histoire de l'humanité, si peu de personnes avaient détenu une telle autorité et un tel pouvoir brut. Cette femme et cet homme allait littéralement changer la face du monde.
Au fait, que ferez-vous lorsque nous aurons lancé le dernier chance? Demandai-je à Strat.
Moi? Aucune importance. Quand le dernier chance sera parti, ma mission sera terminée. Quelques gouvernements m'attaqueront sans doute en justice pour abus de pouvoir. Il se pourrait bien que je finisse ma vie en prison.
Je serai dans la cellule voisine,
intervint Leclerc. « Ça vous inquiète ? » insistai-je.
« Nous devons tous faire des sacrifices, » répondit-elle en haussant les épaules. « Je veux bien endosser le rôle de souffre-douleur pour sauver l'humanité. »«
Vous avez une logique étrange. » »«
Je ne crois pas. Quant à l'alternative, c'est cela ou la mort de l'espèce tout entière. Le choix est vite fait. Il n'y a pas de dilemme, pas de pour ni de contre à peser. » Il y a juste un objectif à atteindre, faire aboutir cette mission.
C'est ce que je me dis aussi,
intervint Leclerc.
3, 2, 1, détonation.
Rien ne se produisit. La côte resta inchangée. Il n'y eut pas d'explosion, pas d'éclair, pas même de bruit.
Les charges ont explosé,
annonça-t-il en regardant sa tablette.
L'onde de choc devrait nous atteindre dans une dizaine de minutes. On pourra croire à un simple orage.
Il s'abîma dans la contemplation du navire. Strat lui mit la main sur l'épaule.
« Vous avez fait ce que vous deviez faire. Nous le faisons tous. »
Il enfouit son visage dans ses mains et pleura. Rocky et moi parlions biologie pendant des heures. Nous sommes tous les deux très intéressés par le fonctionnement du corps de l'autre. Nous serions de piètres scientifiques si ce n'était pas le cas. La physiologie éridienne est franchement incroyable. Éride est tellement proche de son soleil que sa biosphère reçoit une quantité incroyable d'énergie. Cela veut dire que les éridiens, qui, comme les humains, sont au sommet de la chaîne alimentaire de leur planète, bénéficient de bien plus d'énergie que nous. À tel point que leur corps possède des sacs remplis de l'ATP, le médium de stockage d'énergie principale des formes de vie fondées sur l'ADN. Normalement, on le trouve dans les cellules, mais ils en ont tant
qu'il leur faut une manière de stocker plus efficace. Je vous parle de quantités réellement absurdes d'énergie. Ils extraient l'oxygène des minéraux pour obtenir du métal. Les éridiens sont des fonderies biologiques. Les humains ont des cheveux, des ongles, de l'émail et d'autres matières mortes à l'utilité particulière. Les éridiens ont poussé ce concept à l'extrême. La carapace de Rocky est constituée de minéraux oxydés. Ses os sont faits d'alliages métalliques alvéolés. Son sang est principalement constitué de mercure. Même ses nerfs sont des silicates inorganiques transmettant des impulsions lumineuses. Une fois faite l'addition, le corps de Rocky ne contient que quelques kilos de matière biologique. Des organismes unicellulaires parcourent son système sanguin pour construire ou réparer le corps. Ils se chargent également de la digestion et de l'entretien du cerveau, qui se trouve en sécurité au centre de la carapace. Si les ruches apprenaient à marcher, et que les rennes deviennent aussi intelligentes que les humains, cette forme de vie ressemblerait aux éridiens. Sauf que les abeilles des éridiens sont des organismes unicellulaires. Leurs muscles sont inorganiques. Ils sont faits d'un matériau spongieux scellé dans des sacs flexibles. La majeure partie de leur eau est contenue dans ces sacs. Et la pression atmosphérique est tellement forte que l'eau reste liquide à 210 degrés. Ils ont deux systèmes circulatoires différents. Le système ambiant et le système chaud. Le sang ambiant est à 210 degrés. Le sang chaud est maintenu à 305 degrés, ce qui est assez pour faire bouillir de l'eau, y compris dans la pression atmosphérique des rides. Les deux systèmes circulatoires ont des vaisseaux sanguins qui enflent ou se contractent autour des muscles pour réguler leur température. Pour développer, on réchauffe. Pour contracter, on refroidit. En résumé, les éridiens sont des machines à vapeur. Comme le système circulatoire ambiant permet aux muscles de se refroidir en dissipant leur chaleur, sa température a constamment besoin d'être régulée, d'où le radiateur. En un sens, Rocky respire, mais uniquement pour évacuer de l'ammoniaque par les capillaires de ce radiateur situé au sommet de sa carapace. 5 fentes y permettent à l'air d'entrer, mais à aucun moment celui-ci ne pénètre le système sanguin. S'il ne respire pas vraiment, les éridiens utilisent l'oxygène, bien plus que les humains cependant. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils contiennent des cellules quasi-végétales et des cellules animales. De l'oxygène au CO2, du CO2 à l'oxygène et inversement, afin de préserver un équilibre. Le corps de Rocky est une petite biosphère. Il a besoin de nourriture pour son énergie et d'air pour se refroidir. Le sang chaud l'est trop pour qu'il survive du matériau biologique. L'eau y bout. C'est bien pratique d'ailleurs pour stériliser la nourriture en tuant les pathogènes. Afin que ces cellules ouvrières puissent réparer le système sanguin chaud, celui-ci doit être rafraîchi. Lorsque cela se produit, l'éridien est incapable d'user de ses muscles. C'est la raison pour laquelle il dort. Enfin, pas vraiment. Il est paralysé et son cerveau est mis en veille pour être entretenu. Un éridien endormi est incapable de se réveiller. Voilà pourquoi ils se surveillent pendant leur sommeil. Ils assurent mutuellement leur sécurité. Cette habitude date sans doute des éridiens des cavernes. Désormais, c'est une norme sociale. Tout cela me fascine, mais c'est un sujet extrêmement ennuyeux pour Rocky. En revanche, celui de l'humanité l'intéresse au plus haut point.
Vous entendre lumière ? Question.
Lorsqu'il est surpris ou impressionné, les premiers accords de ses phrases chevrotent un peu. Oui, j'entends la lumière. Pendant que nous discutons, il use de ses nombreuses mains pour assembler un appareil complexe. Une machine presque aussi grosse que lui. Je remarque qu'elle est constituée d'éléments qu'il a réparés ces derniers jours. Rocky est capable de converser tout en effectuant une tâche complexe. J'ai l'impression que les éridiens sont bien plus multitâches que nous.
Comment ?
Question.
Comment possible entendre lumière ? Question.
Ce sont des organes spéciaux capables de se focaliser et de détecter la lumière, expliquai-je en désignant mes yeux. Ils envoient ces informations à mon cerveau.
Lumière, données, informations? Question. Assez pour comprendre environnement? Question.
Oui.
La lumière informe les humains comme les sons informent les iridiens.
Une pensée lui vient. Il cesse de travailler sur son appareil.
Vous entendre lumière de l'espace? Question. Vous entendre étoiles, planètes, astéroïdes? Question.
Oui.
Stupéfaction. Et son? Question. Vous entendre son? Question.
J'entends les sons avec ça, réponds-je en montrant mes oreilles.
Comment entendez-vous les sons?
Partout, explique-t-il en désignant sa carapace avec ses membres.
Petit récepteur sur carapace externe, information transmise cerveau, comme toucher.
Son corps tout entier est un micro. Son cerveau a une capacité de traitement phénoménale. Il doit constamment être conscient de sa posture et du moment précis auquel un bruit atteint différentes parties de son anatomie.
Très intéressant.
Il est vrai que mon cerveau me fournit un modèle en 3D de mon environnement grâce aux données transmises par mes globes oculaires. Les capacités sensorielles sont toujours très impressionnantes.
Je n'entends pas aussi bien que vous. En l'absence de lumière, je suis incapable de comprendre un espace.
Je peux vous entendre parler, mais c'est tout.
Ceci, mur, remarque-t-il en touchant la paroi transparente.
Mais c'est un mur spécial, qui laisse passer la lumière.
Fascination. Je proposez-vous nombreux matériaux avant fabrication mur. Vous choisir celui-ci parce que laisser passer lumière? Question.
Il parle de la paroi constituée d'hexagones de différentes textures et couleurs. Cela me semble si vieux. J'avais choisi l'hexagone transparent, évidemment.
Oui, je l'ai choisi parce que la lumière le traverse. Stupéfaction. Moi offrir différents choix de... Pour son. Jamais penser lumière.
Je jette un coup d'œil à mon ordinateur car je n'ai pas compris un mot. Cela ne m'arrive presque plus. De temps à autre, je trébuche sur un mot oublié. L'ordinateur traduit « qualité ». Je ne m'en veux pas de ne pas l'avoir compris.
Rocky n'utilise pas ce mot très souvent.
On a eu de la chance.
Oui, chance,
acquiesce-t-il. Il peaufine quelques réglages sur son appareil, puis range ses outils dans son ceinturon.
Terminé.
Qu'est-ce que c'est?
Dispositif gardez-moi vivant dans petit espace.
Il semble heureux. Sa carapace est un peu plus dressée que d'habitude.
Attendre.
Il disparaît dans le vaisseau, laissant le dispositif derrière lui. Il revient avec plusieurs plaques de xénonite transparentes. Chaque plaque est un pentagone mesurant environ 1 cm d'épaisseur et 1 pied de hauteur. Je m'en veux vraiment de penser avec des unités hybrides disparates, mais c'est la manière de fonctionner de mon cerveau.
Moi, construire chambre.
Il assemble les pentagones à l'aide d'un genre de glue épaisse et se retrouve bientôt avec les deux moitiés d'un dodécaèdre. Il me le montre fièrement avant de les coller l'une contre l'autre.
Voilà, chambre.
La chambre est une sphère géodésique constituée de pentagones. Elle mesure environ 1 mètre de diamètre. Elle est donc assez grande pour abriter Rocky. À quoi sert cette chambre?
Chambre et dispositif pour garder moi vivant dans votre vaisseau.
Vous voulez monter à bord de mon vaisseau? M'étonnais-je en haussant un sourcil.
Envie voir technologie humaine. Autorisé? Question.
Oui, autorisé. Que voulez-vous voir?
Tout. Science humaine meilleure que science éridienne.
Il désigne l'ordinateur qui flotte à côté de moi.
Machine pensante. Éridien pas à voir. Beaucoup machine éridien pas à voir.
Précise-t-il en montrant mes outils.
Oui.
Vous pourrez voir tout ce qui vous intéresse. Mais comment allez-vous faire pour la mettre là-dedans?
Demandai-je en pointant du doigt le petit sas en forme de boîte. Vous quittez tunnel. Moi construire autre mur. Sas plus grand.
Il attrape le dispositif sur lequel il a travaillé longtemps et le sangle sur sa carapace. Je comprends alors qu'il s'agit d'un système de support vie. Il recouvre les fentes dans sa carapace.
Ce n'est pas dangereux. Ça bloque votre radiateur? Non,
Système prendre air chaud et produire air froid.
Un climatiseur.
Ce n'est pas le premier truc auquel on pense lorsqu'on imagine une espèce vivant confortablement dans des températures dépassant les 200 degrés.
Il scelle le globe autour de lui avec de la glu.
Maintenant, testez.
Il flotte pendant une minute, puis il annonce.
Fonctionne. Heureux.
Super. Comment ça marche? Où s'en va la chaleur?
Facile, dit-il en tapotant une partie de la machine.
Ici, astrophage. Astrophage absorber chaleur au-dessus 96 degrés.
Ah, effectivement. Pour les humains, les astrophages sont chauds. Pour les Iridiens, ils sont relativement froids. Des agents de climatisation idéaux. Il suffit à Rocky de faire passer son air au-dessus d'une aération remplie d'astrophages, par exemple.
C'est malin.
Merci. Vous partir maintenant. Moi construire plus gros sas pour tunnel.
Oui, oui, oui.
Je rassemble toutes mes affaires, y compris le matelas que je décolle du mur, et je fourre le tout dans la salle de contrôle, avant de sceller les deux portes du sas. Je passe l'heure qui suit à faire le ménage. Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite.